On se retrouve ce soir encore pour parler ensemble de l'identité. C'est ce sujet qu'on aborde depuis plusieurs semaines maintenant. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, qui ont été partagées, mais c'est une question qui est tellement importante, qui est tellement cruciale. L'identité, c'est qui je suis, qui nous sommes. Et au travers de ce qui a déjà été partagé par les différents intervenants, que ce soit Guillaume, Sandrine, Marido et Elodie aussi, il y a quelque chose quand même qu'on voit, c'est que notre identité, l'identité, c'est quelque chose qui se construit progressivement. Mon identité est déterminée par un ensemble de choses qui vont m'influencer, qui vont participer à ma construction. Mon identité est déterminée par mon héritage familial, très important. Elle est déterminée par mon environnement social. Elle est déterminée par les gens que je fréquente, par les amis que je choisis. Mon identité personnelle, elle est déterminée par les bons moments que j'ai pu vivre dans ma famille ou dans d'autres cadres, les moments de joie, et ça aussi, ça nous impacte. Mais mon identité, elle est aussi constituée par les moments de tristesse, par les blessures, par les choses qui nous ont touchés profondément et qui ont laissé des marques. Et tout cela, tout cet ensemble de choses, c'est ce qui constitue notre caractère, notre personnalité. C'est ce qui fait que je suis la personne que je suis. Et toutes ces choses qui ont participé à me construire en tant qu'être, en tant qu'homme, en tant que femme, toutes ces choses-là déterminent ma façon de voir la vie, ma façon d'envisager la vie, l'existence. Ça détermine ma façon de réagir par rapport à des situations auxquelles nous sommes appelés à faire face. Ça détermine ma façon même de faire des choix. Tout ça, c'est lié à la manière dont nous avons construit notre identité. Et c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre et de saisir l'identité qui nous est donnée, qui nous est transmise quand on place notre foi en Christ, en Dieu. Ça change tout. Parce que quand on trouve cette identité, on devient la personne que Dieu a voulu qu'on soit, malgré les choses pénibles qu'on a pu vivre et qui nous ont influencés. Et il y a un élément de notre personnalité qui influe énormément sur la façon dont nous envisageons la vie et dont nous envisageons les choses, c'est l'estime de soi. Et c'est à cela qu'on va s'intéresser. Ça a été quelquefois un peu abordé dans les interventions précédentes, mais on va vraiment prendre le temps de revenir sur cette question ce soir. Parce que une bonne estime de soi, ça favorise l'esprit d'initiative. Ça favorise la confiance en soi. Ça permet de créer, de développer des relations saines. Ça permet de gagner en assurance. Tandis que une mauvaise estime de soi, ça bloque l'esprit d'initiative. Ça étouffe la confiance en soi. Ça engendre la peur constante de faire des erreurs. Ça engendre la peur d'être, la crainte d'être ridicule. Ça fait naître des sentiments d'infériorité quand on n'a pas une bonne estime de soi. Et ça a des conséquences inévitablement dans nos relations et même dans nos engagements, nos engagements amicaux, nos engagements professionnels, nos engagements aussi dans l'église. Avoir une mauvaise estime de soi, c'est pas normal. C'est un dysfonctionnement. Parce que c'est pas ce que Dieu veut que nous vivions. Il veut pas qu'on ait une mauvaise estime de soi. Il veut pas qu'on ait une mauvaise image de soi. Dieu a accordé énormément de valeur à l'être humain. Quand vous lisez le récit de la création, vous avez vu dans quelle position l'être humain est placé. C'est lui qui est tout en dernier. Et Dieu lui dit, c'est toi qui vas dominer sur la création. Tout ça, je te le confie. Vous voyez un peu la valeur que Dieu a pu donner à l'homme, à la femme, à l'être humain. C'est comme ça que Dieu veut nous voir, conscient de cette valeur-là. Mais le problème, c'est ce qui se passe dans la suite du récit, c'est que l'être humain, il a tendance à vouloir être indépendant, à se déconnecter de Dieu, et c'est ce qui fait qu'il construit son identité d'une manière un peu bancale, et qu'il a des blessures, et qu'il perd quelquefois cette estime de soi. Ça ne concerne pas forcément tout le monde, et j'imagine que là, il y en a certains, ça va, c'est pas un problème, puis d'autres, vraiment, c'est quelque chose qui les touche, c'est quelque chose qui les marque. Alors on va voir un peu comment tout ça fonctionne. Et dans une première partie, on va examiner les causes du manque d'estime de soi. Quand on est confronté à un problème, et si ce problème c'est le manque d'estime de soi, c'est un problème par rapport à ça, il faut comprendre d'où ça vient. Pour pouvoir entreprendre ce cheminement dont Sandrine nous a parlé, il faut qu'on puisse identifier quelle est la cause de ce problème d'estime que j'ai par rapport à moi-même. Hier soir, on était invité à manger chez des amis et puis il y avait leur fille qui était là, une jeune fille de 25 ans, et elle venait de se faire opérer des yeux, de la myopie. Depuis qu'elle est toute petite, elle voit flou, elle voit pas bien. Et donc, elle a subi cette opération au laser. Ça se fait, c'est très fréquent maintenant. Et elle expliquait que le docteur avait repéré sur sa cornée l'endroit où c'était déformé pour que le laser puisse taper au... Là, ça se joue à des micromillimètres, hein, puisse taper là où était la déformation pour que sa cornée puisse être remodelée et qu'elle puisse avoir une meilleure vue. Et grâce à ça, grâce à cette intervention hyper, hyper, hyper millimétrée, elle a 10 sur 10 aux deux yeux. Alors, elle était contente, hein, elle voyait tout, même les tout petits trucs qui étaient écrits, elle pouvait tout déchiffrer maintenant. Et ça, c'est parce que le problème avait été bien identifié. La cause avait bien été identifiée. Et spirituellement, moralement, il faut qu'on ait la même démarche. Il faut qu'on aille pile sur le problème, de manière à ce que, comme la parole, l'Esprit de Dieu, comme un laser, puisse venir reformer ce qui a été déformé, transformer ce qui a été déformé à cause de notre indépendance par rapport à Dieu. Et pour ce faire, j'aimerais rebondir sur une histoire que Guillaume nous a racontée la semaine dernière. A priori, c'était quand même un personnage que vous connaissiez bien parce qu'il avait lu, il avait résumé sa vie et puis vous aviez tous deviné qu'il s'agissait du roi David. Donc ça va nous éviter de relire toute l'histoire du roi David. On va s'intéresser au début de son histoire et c'est une histoire qui est vraiment riche d'enseignements en ce qui concerne ses problèmes d'estime de soi. David a été un roi glorieux, c'est certainement un des rois de la Bible les plus connus. Mais avant de monter sur le trône, il a quand même rencontré pas mal de problèmes et pas mal de difficultés. Et il y avait vraiment peu de choses qui destinaient David à prendre confiance en lui. Tout indique que dans sa jeunesse, et Guillaume nous l'avait rappelé, on lui avait pas beaucoup accordé d'importance. Il était un peu la quantité négligeable de la famille. Et on va voir un peu, en suivant le début de son parcours, comment ça s'est passé pour lui. Alors, le manque d'estime de soi, ça peut venir tout d'abord de problèmes familiaux, ce à quoi David était confronté. David était le dernier d'une famille de 8 frères. Je ne sais pas s'il y a des familles nombreuses chez vous et que vous êtes peut-être le dernier d'une grande fratrie, mais lui, il était le dernier de 8 frères. Et lorsqu'il est né, son père était déjà un vieil homme, son père était déjà âgé. On lit ça dans 1 Samuel 17, au verset 12, la précision nous est donnée. David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, son père, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Ça signifie que si Isaïe a eu David dans sa vieillesse, qu'il n'a pas sans doute eu autant de temps et autant de force à consacrer à David qu'il a pu en consacrer à tous ses frères qui étaient venus avant lui. Et ça laisse penser que David a grandi sans passer beaucoup de temps avec son père et qu'il s'est retrouvé beaucoup plus rapidement que ses frères privé de la présence rassurante de son père. Et une des causes du manque d'estime de soi, ça peut venir de l'absence des parents. De l'absence des parents. Vous savez, vous avez des parents qui sont très occupés. Vous avez des parents qui ont à peine le temps de manifester de la présence auprès de leurs enfants, alors que la famille, c'est quelque chose qui est tellement précieux et tellement important. Parce que la famille, c'est un cadre protecteur dans lequel on est destiné à bien se sentir. Tous les membres d'une famille sont appelés à bien se sentir dans leur famille. Et si la famille ne joue pas bien ce rôle, s'il y a une déficience, notamment au niveau de l'intérêt que les parents sont appelés à porter à leurs enfants, ça crée un sentiment d'insécurité parce que, notamment en tant qu'enfant, c'est dans la famille. Je parlais de la construction de l'identité tout à l'heure. Et on a besoin de se construire dans un lieu où on se sent bien, dans un lieu où on se sent en sécurité. Et si les parents sont absents, ça manque ce sentiment de sécurité. Et c'est souvent le cas d'ailleurs chez les enfants dont les parents se sont séparés, dont les parents ont divorcé. Et c'est malheureusement tellement fréquent dans notre société d'aujourd'hui. Et ça fait naître ce sentiment d'insécurité. C'est quelque chose dont je peux vous parler d'expérience parce que mon père, je ne l'ai pratiquement pas vu dans mon enfance et même dans mon adolescence. Quand je me levais le matin avant d'aller à l'école, il était déjà parti au travail. Et quand je rentrais le soir, je me couchais avant qu'il rentre du travail. Ce qui fait que j'ai grandi sans avoir vraiment de contact avec mon père. Et même encore aujourd'hui, hein, c'est pas quelqu'un qui est très très présent. À mon anniversaire, téléphone jamais. Là. Je me souviens même pas de la dernière fois où il m'a appelé pour mon anniversaire. Donc bah, voilà, c'est comme ça. Mais je me suis rendu compte à un moment donné l'impact que ça avait eu sur mon sentiment de sécurité. Le fait est que même mes parents se sont séparés, ils ont divorcé. Et ça a créé ce sentiment d'insécurité en moi. Et il a fallu que je comprenne d'où ça vienne pour pouvoir le surmonter. Et ça peut être une raison d'un manque d'estime de soi. Parce qu'on n'a pas grandi dans un contexte familial qui assurait cette sécurité qui nous est nécessaire. Une deuxième cause, c'est quand on est objet de comparaison. Samuel, le prophète, arrive à Bethléem, c'est Dieu qui l'a envoyé pour choisir un nouveau roi pour Israël. Vous connaissez l'histoire. Et il va demander à Isaïe de venir avec ses fils. Il organise un sacrifice et lui dit « Viens avec tous tes fils ». Et Isaïe fait venir tous ses fils, hein, ça nous a été rappelé la dernière fois, sauf David. Il était resté dans les champs à garder les moutons et visiblement, Isaïe ne jugeait pas utile que David vienne. Il était plus utile à garder les moutons qu'à venir se rassembler avec le reste de la famille. Et bien ça, c'est une autre raison du manque d'estime de soi. Ça peut provenir du fait que dans son enfance, on a été dévalorisé ou qu'on n'a pas reçu toute l'attention dont on avait besoin. Et vous savez, c'est les paroles du genre quand on revient avec le carnet de notes et puis « Oh là, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Et ça, c'est le genre de parole qui touche, ça valorise pas ça. Ou alors « Ouais, ok, mais je pense que tu peux mieux faire. » Ça a presque le même impact quand c'est répété, hein. Parce que quand on entend ces paroles-là, on est toujours confronté à son insuffisance. Ouais, c'est bien, mais peut mieux faire. Tu te dis mince, je me suis donné pour avoir ce résultat-là, mais en fait, je peux mieux faire encore. Et on est comme ça constamment confronté à son insuffisance. Et tout ça, ça laisse des traces et ça joue sur l'estime de soi. Parce qu'à un moment, on se dit mais je suis pas à la hauteur. Le manque d'intérêt des parents pour ce que l'on est ou pour ce que l'on fait laisse des marques aussi. Les parents qui s'intéressent pas vraiment à la scolarité de leur enfant. L'enfant, il est un peu obligé de se débrouiller tout seul. Il peut revenir avec un 18 et puis les parents, ils vont à peine faire attention. Ouais, ok, très bien, on verra la prochaine fois. Les parents qui s'intéressent pas aux activités des enfants, les activités extrascolaires. Quand ils viennent jamais voir le match, ils viennent jamais voir le gala de l'enfant. Alors qu'il a préparé ça pendant toute une saison. Et souvent, les enfants, ils sont fiers, ils sont heureux, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire, notamment à leurs parents. Il y a des dizaines et des dizaines de gens qui peuvent venir à un match ou à un gala, mais dans le cœur, dans l'esprit d'un enfant, c'est quand même que ses parents soient là, que sa famille soit là. Mais s'ils ne s'intéressent pas là, ça peut avoir cet impact au niveau de l'estime de soi-même. On peut aussi avoir été l'objet de comparaisons en notre défaveur. Des fois même avec les membres de notre famille, avec un frère, avec une sœur. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça aussi dans l'histoire de David. Parce que quand Samuel arrive et qu'il demande à Isaïe de faire venir ses fils, le premier qui se présente, c'est Eliab, le frère aîné. Je crois qu'il va les prendre dans l'ordre comme ça. Et quand Samuel, le prophète, voit Eliab se présenter, la réaction c'est « Oh là là, mais alors là c'est sûr, c'est certain, le nouveau roi d'Israël c'est lui ». Je sais pas, peut-être qu'il avait l'air costaud, qu'il avait l'air intelligent, j'en sais rien sur quoi il jugeait Samuel, mais tout de suite ça a été ça. Ça veut dire que Eliab, il avait une certaine prestance, il avait de la présence. Il arrive dans la pièce, oh bah oui, c'est clair, c'est lui. Moi j'aimerais bien quand j'arrive dans la pièce qu'on se dise oh, c'est toi, je sais pas d'ailleurs. Mais il y a des gens qui dégagent une présence comme ça. Alors forcément David, qui était pas trop là, qui était un peu laissé de côté. Et il y a des comparaisons qui peuvent faire mal quand on a quelqu'un dans la famille, un frère, une sœur qui travaille mieux que nous à l'école, par exemple, ou qui est plus performant dans un autre domaine, en sport, j'en sais rien. C'est des fois difficile d'exister. Et on se compare, on se dit, bah ouais, non, moi je peux pas faire ça, j'ai pas la capacité de faire ça. Et ça joue sur l'estime qu'on se porte à soi-même. Les origines sociales aussi. David va retrouver ses frères à une bataille contre les Philistins. Et il y avait les Philistins qui étaient là, et puis il y a Goliath qui arrive et puis qui dit « On va pas faire la bataille, moi je suis le champion des Philistins, vous les Israélites, vous choisissez un champion, et puis plutôt que tout le monde se tape dessus, on va faire un combat, un duel, Et si c'est moi qui gagne, vous devenez les esclaves des Philistins. Et si c'est votre champion qui gagne, ce sont les Philistins qui seront soumis aux Israélites. Bah, il est là, il est en train de les défier. Il est en train de faire une espèce de haka, vous savez, là, kamate, kamate, pour faire peur aux Israélites. Et David, ça marche parce que personne se porte volontaire. Il dit, oh non, je veux pas y aller. Et David, il arrive, il dit, mais c'est quoi ça? Il est en train de nous provoquer, il est en train de nous défier. Et en portant atteinte au peuple d'Israël, il porte atteinte au Dieu d'Israël. Et il va remporter la victoire avec sa fronde, il va affronter Goliath, il va le tuer, il va devenir le champion d'Israël. Et Saül, le roi Saül, qui régnait à ce moment-là, avait promis que celui qui remporterait la victoire épouserait sa fille, la princesse. Et lorsque David va obtenir sa récompense, entre guillemets, épouser la fille aînée du roi, il s'en sent pas digne. C'est ce qu'on lit dans 1 Samuel 18, au verset 18. David répondit à Saül, « Qui suis-je ? Et qu'est-ce que ma vie ? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Vous voyez un peu la réaction. Moi, je suis personne. Est-ce que je suis pas digne de recevoir la main de la princesse ? Sa récompense, elle est légitime, parce que c'est ce que le roi avait promis, mais il n'est pas assez fier de ses origines. Il dit, moi je suis un cutéreux un peu, moi je garde les moutons, alors je ne vais pas épouser une grande dame de l'aristocratie royale d'Israël. Et le manque d'estime de soi, c'est un sentiment qui peut naître aussi de nos origines sociales. Quand on est issu d'un milieu un peu modeste, voire défavorisé, et surtout dans l'enfance, hein, quand on est enfant, c'est chaud, hein, c'est dur. Hein. Les enfants, ils se font pas de cadeaux à ce niveau-là. On sent la différence. Et des fois même, on nous fait sentir la différence sur notre manière de nous habiller, parce qu'on n'a pas des habits aussi beaux, aussi fashion, aussi tendance que les autres qui sont autour de nous sur la cour de récré. Des fois, c'est lié au quartier, parce qu'on sait que tu habites dans ce quartier ou tu viens de ce quartier. Bam, ça te file la honte. Et ça joue sur ton estime de soi. On peut prolonger même par rapport à l'origine ethnique. Quand on arrive dans un pays ou dans une région et qu'on est originaire d'un autre pays, on a des fois un prénom pas commun, un nom de famille qui sonne bizarre. Et puis les autres, ils rigolent, ils le soulignent. Et tout ça, ça joue sur l'image que l'on a de soi-même. Ça, ce sont quelques exemples qui sont tirés de l'histoire de David, mais je pourrais allonger la liste. Les difficultés scolaires engendrent des sentiments d'infériorité, parce que on n'a pas réussi à atteindre le même niveau que les autres, alors on se sent en dessous de la moyenne. En France, ça c'est quand même incroyable, on nous demande d'être bon dans partout. Il faut que tu sois bon en maths, en français, en SVT, en sciences physiques, en sport. Et tu peux pas être bon partout, mais il faut que tu aies 10. Et quand t'as, parce que la moyenne c'est sur 20, et si t'as 7 sur 20, t'as l'impression que tu vaux 7 sur 20. Parce qu'on te demande d'être performant partout, alors que c'est pas possible. Il faudrait plutôt se concentrer sur ce qu'on sait faire en fait. Les difficultés scolaires peuvent te faire sentir que t'es pas à la hauteur. Et ça joue sur ton estime de toi. Plus généralement, le fait d'avoir connu un échec peut provoquer le sentiment d'infériorité. J'ai échoué. Donc si j'ai échoué, j'y arriverai jamais. J'ai échoué mon examen, j'ai échoué dans ma relation amicale, j'ai échoué dans ma relation amoureuse aussi, ça peut arriver. Et là, j'ai pas été capable, donc je ne peux pas être capable. Les différences physiques jouent aussi sur l'estime de soi. Ça peut alimenter des sentiments d'infériorité. Bon, ça, on en a parlé déjà, hein, trop grand, trop gros, trop petit, trop maigre. Et il y a tellement d'autres choses, hein, être victime de l'autoritarisme au sein de sa famille. Être victime d'abus moraux, mais abus physiques aussi, forcément, ça joue sur l'image qu'on a de soi-même, de son corps, de ce qu'on est. Vous savez, il y a deux façons naturelles pour faire face à un manque d'estime de soi. Parce que de toute façon, on réagit, c'est obligé. Et on a des défenses, des mécanismes de défense qui se mettent en route à ce moment-là. La première façon de faire face au manque d'estime de soi, c'est comme David, c'est de se dévaloriser. Ah, je suis un manque-rien, je suis à la hauteur de personne. Et ça nous amène à nous réfugier dans la timidité, à nous mettre en retrait. Parce que comme on redoute de jamais être à la hauteur, comme on redoute l'humiliation, on fait en sorte de l'éviter. Et on se met en retrait, on se réfugie en soi-même. Et quelquefois même on s'isole parce qu'on se sent pas digne d'être en compagnie des autres. Première façon de réagir, je vaux rien, je me dévalorise. Mais deuxième façon de réagir, c'est le contraire, c'est de se survaloriser. C'est ce qu'on appelle techniquement la surcompensation. Le désir d'être reconnu, le désir d'être accepté, le désir d'être aimé, parce que si on sent, là, si on n'a pas conscience de notre valeur, on va la chercher chez les autres. Et ce désir d'être reconnu et apprécié est tellement fort qu'il se traduit par un besoin constant de se montrer mieux que les autres. Et quand tu es là, tu es dans un groupe, tu vas essayer d'apparaître comme étant le plus rigolo. Tu vas attirer l'attention sur toi et tu vas essayer d'être performant dans l'humour, par exemple. Être le plus drôle, ou alors être le plus intelligent. Chaque fois qu'il y a une conversation sur quelque chose, eh ben, tu vas montrer ce que tu sais, tu vas un peu étaler ta connaissance, comme ça. Hein. Et quelquefois même le plus spirituel. Pour pouvoir être valorisé dans les yeux des autres, tu vas être celui qui témoigne le mieux, celui qui prie le mieux, celui qui chante le mieux, celui qui prêche le mieux. Se survaloriser pour pouvoir capter là et dire aux autres je vaux quelque chose. En tout cas, essayer de capter ça. Alors on va voir comment acquérir une bonne estime de soi. Ça, c'est pour nous aider à essayer de comprendre comment on peut ressentir ces choses-là. Mais comment on peut faire pour s'en sortir? Il y a deux choses principales à intégrer, à recevoir. Tout d'abord, c'est de prendre conscience de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Tu es une créature unique. Unique. Dans toute l'histoire du monde, il n'y a jamais eu quelqu'un comme toi. Et il n'y aura jamais quelqu'un comme toi. Tu es un exemplaire unique de la race humaine. Et c'est ce que dit David dans un de ses psaumes, ce qui montre que ça, il l'a compris. Et que ça l'a certainement aidé à dépasser ce problème d'estime de soi. C'est dans le psaume 139, des versets, on va lire ça. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Il est capable de dire « Seigneur Dieu, je te loue de la créature que je suis. Je te loue de comment tu m'as créé. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Il est en train d'évoquer sa conception. Et là, il est en train de dire « Mais quand tu m'as façonné dans le ventre de ma mère, eh bien, tu pensais à moi. Là, j'étais ton projet. Quand je n'étais qu'une masse informe ou quand je n'étais qu'un embryon, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Tu es le projet de Dieu. Dieu t'a façonné. Dieu t'a tissé pour te faire tel que tu es. Personne n'a le même ADN. C'est extraordinaire, ça. Personne n'a le même ADN. L'ADN, c'est tout le programme qui fait que tu as les yeux que tu as, que tu as les cheveux que tu as, et que tu as une partie aussi innée hein, de ton caractère, de ta personnalité. Cet ADN, il est différent de n'importe quelle autre personne que cette terre ait portée. Tu es une créature unique. Dieu t'a fait pour être ce que tu es. C'est ce que disait Sandrine. Au moment de ta conception, sur des milliards et des milliards de spermatozoïdes, il y en a un seul qui a atteint l'ovule, et c'est toi. C'est fou. Moi, c'est la seule course que j'ai gagnée de ma vie. Je suis nul en sport. Mais là, je me suis démené. Et non, et en fait, c'est même pas moi. C'est Dieu qui l'a voulu. Mais quand même, c'est fou, ça. Dieu ne nous a pas fait en série. À chaque fois, il a créé un exemplaire unique. Moi, il ne m'a pas tissé de la même manière que Shaima. Ça se voit. Hein. Il ne m'a pas tissé de la même manière que Guillaume. Il ne m'a pas tissé de la même manière que Nathanaël ou que Divin. Il nous a tissé, il nous a créés tous d'une manière particulière. Et c'est ce qui te rend précieux. C'est ce qui me rend précieux. C'est ce qui fait que tu as de la valeur, qu'on a de la valeur, que j'ai de la valeur. On dit... Tout ce qui est rare est cher. Pourquoi est-ce que l'or, ça vaut si cher? Quelques grammes d'or, ça vaut tellement cher? Parce que l'or, c'est rare. Pourquoi est-ce que les pierres précieuses comme le rubis, le diamant, le topaz, tout ça, ça vaut cher? Parce que ce sont des pierres qui sont rares. Eh ben, tu es rare. Tu es rare parce que tu es unique. Donc, tu vaux cher. Il y a une valeur énorme attachée à ta personne. Au mois de novembre dernier, en novembre 2016, j'écoutais les infos et dans l'actualité, il était dit que une planche originale d'un album de Tintin qui a été dessiné par Hergé a été vendue lors d'une vente aux enchères. C'est cette planche-là. Est-ce que vous avez une idée du prix de cette planche? Alors allez-y. Qui dit mieux? 500 000? 500 000 plus ou moins? Moins de 500 000? Plus de 500 000. Alors, 600 000? 600 000 à droite, 600 000 à gauche? 1 million? 1 million ici, j'ai 1 million à ma gauche? Non, plus que ça encore.
2 millions?
Non, pas jusqu'à 2 millions, mais 1 million et demi. 1,55 million d'euros. Une planche qui a été dessinée de la main d'Hergé. En fait, cette planche, comme moi, tu peux l'avoir pour 11 euros. Toi, moi, je l'ai là dans mon album de Tintin, on a marché sur la lune. Et tu vas dans un magasin aujourd'hui, ça vaut 11 euros. Et en plus, elle est en couleur. Et moi, j'ai plein d'autres dessins quoi, dans mon album. Mais la différence entre mon album là et puis la planche ici, c'est que la valeur c'est pas la même parce que ça c'est pas l'original. L'original, il est là, il vaut 1 million et demi. Moi, il vaut 11 euros. Et encore celui-là, c'était quand j'étais enfant, donc c'est Mathusalem qui me l'a offert. Il n'existe qu'un seul exemplaire de cette planche qui a été dessinée de la main même de l'auteur de Tintin, de la main même d'Hergé. Et c'est ce qui lui donne cette valeur immense. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Dieu, ton créateur, t'a fait comme tu es et tu as une valeur immense pour lui. Alors, ne te dévalorise pas en te comparant aux autres. T'es pas inférieur aux autres, t'es pas supérieur non plus. Mais tu es qui tu es, comment Dieu t'a fait. Tu es différent. Et c'est ce qui te donne toute ta valeur. Et le deuxième point, c'est de prendre conscience du potentiel que Dieu a placé en toi. Dieu a choisi David pour être roi d'Israël. On le lit dans 1 Samuel 16, verset 1. Il dit à Samuel, au prophète, « Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Dieu, il savait bien qui il voulait pour roi d'Israël. Et nul doute que le choix de Dieu a aidé David à prendre confiance en lui. Personne n'aurait pensé à David pour remplir cette tâche royale. Mais Dieu savait que David avait en lui les dispositions pour être roi. Personne ne le voyait. Et c'est pour ça que lorsque Samuel va voir Eliab et qu'il lui dit « Oh, c'est lui, c'est certain », eh bien Dieu dit à Samuel, c'est le verset qui suit, verset 7, L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai écarté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le cœur dans la Bible, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Ça peut même désigne en fait l'être intérieur de l'homme. Et là, Dieu est en train de dire à Samuel, moi j'ai vu ce qu'il y a à l'intérieur de David. Et je sais qu'en lui, il porte le potentiel et la capacité de devenir le roi d'Israël. Toi, même le prophète, tu le vois pas. Personne le voit. Mais moi, je sais qu'il a ce potentiel en lui. Et c'est le choix de Dieu qui va permettre à David de prendre conscience de ses capacités, de prendre conscience de ses qualités. Et ça va le conduire à ne pas se focaliser sur ses faiblesses, mais à prendre aussi en considération ses points forts. Et un de ses points forts à David, c'est le courage. Et la prise de conscience de ce point fort apparaît dans le fait qu'il arrive et il se sent prêt à affronter Goliath. Quand il se présente devant Saül pour se porter volontaire, le roi lui dit, mais attends, t'es pas sérieux, t'es pas assez préparé. David, à nouveau confronté à des paroles dévalorisantes. Il arrive, moi, je vais être le champion d'Israël. Il dit, ah non, attends, on lit ça, c'est 1 Samuel 17. Ouais, voilà, verset 33. Il dit, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant, tandis que lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. Genre, voilà, mon gars, tu vas pas tenir 2 minutes devant Goliath. T'as aucun entraînement, t'as aucune expérience. Lui, depuis qu'il a 2 ans et demi, il tue des gens. Et c'est vrai que, encore une fois, à vue humaine, David n'avait jamais combattu, il n'avait jamais fait la guerre jusqu'ici. Mais il avait déjà eu l'occasion d'affronter des ours et des lions quand il gardait les moutons. Et parce que, et c'est quand même pas rien, un Philistin, ça doit être impressionnant, mais je veux dire, un ours, moi je ne vais pas me frotter comme ça à un ours, hein, et un lion encore moins. Mais il avait fait cette expérience. Il savait qu'il était capable de lutter contre ces bêtes sauvages pour sauver ses moutons. Et il savait surtout que Dieu était avec lui dans les moments où il allait arracher des moutons à la gueule des lions, à la gueule des ours. Et là, il prend conscience de ses capacités. Et c'est ce qui lui permet de prendre l'initiative de combattre Goliath. C'est au verset 37. David, il répond à Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Il y a quelque chose là qui se passe, c'est que c'est un peu comme si Saül percevait déjà l'onction que Samuel avait déposée sur David. Il dit, « Waouh, le gars là, il en veut quand même. » Là, il arrive à me convaincre quelque part. Et le résultat, c'est que Goliath est abattu. Et c'est ce courage-là qui va l'aider à devenir roi, qui va lui permettre de devenir roi. Il va le démontrer hein, par la suite. Mais à un moment donné, ça se révèle. Il en prend conscience. Tu vois, on a tous un potentiel que Dieu a placé en nous. Si c'est Dieu qui nous a créés, si c'est Dieu qui t'a créé, ça veut dire qu'il a mis en toi des capacités et un potentiel. C'est quelque chose qui est là, peut-être qui dort, mais que tu es appelé à activer. En plaçant ta foi en Christ, en plaçant ta foi en Dieu. Il y a cette histoire d'un missionnaire qui s'appelait Herbert Jackson. Il était missionnaire en Afrique, ça remonte à quelques années en arrière. Et pour l'aider, il y avait une dame qui lui avait offert une automobile, une voiture. Mais le problème, c'est que cette voiture, elle démarrait pas. Alors chaque matin, avant d'aller où il devait aller, Herbert Jackson, il s'était entendu d'aller voir des enfants dans une école qui était à côté de chez lui. Et puis, il avait demandé à l'instituteur s'il pouvait permettre à quelques enfants de pousser sa voiture jusqu'en haut de la colline qui était à côté pour qu'ils puissent démarrer la voiture en prenant la pente. Et il a fait ça. Et tous les matins, les enfants venaient pousser la voiture jusqu'en haut de la colline. Et c'est comme ça qu'il démarrait sa voiture. Et puis, au bout de 2 ans, il était obligé de partir, d'aller ailleurs. Et il y a un autre missionnaire qui est venu pour le remplacer et il lui a laissé la voiture. Il lui a dit, voilà, je te donne les clés, mais il faut que tu saches quelque chose. C'est qu'elle ne démarre pas. Alors, pour qu'elle démarre, bah, je me suis entendu avec les enfants et tous les jours, le nouveau missionnaire, il dit, je regardais sous le capot. Et il ouvre le capot, il dit, ah, ok. Et il dit, en fait, c'est parce que le petit câble là, il est trop lâche. Mais je pense qu'en le tournant comme ça, ça devrait aller. Essayez. Et la voiture, elle démarre. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il avait demandé aux enfants de pousser alors que c'était pas utile. C'était inutile. Et c'est ça, c'est que si ton problème d'estime de soi, il est pas réglé, ton potentiel ne s'exprime pas et tu te bats par toi-même pour exister. Tu comptes sur tes efforts, sur ton investissement personnel. Mais de prendre conscience que ce potentiel, il est là, il existe, et que l'Esprit de Dieu peut l'animer, ça va t'amener à pouvoir le manifester, comme pour David. Il n'y a personne, absolument personne, qui se résume à ses faiblesses et à ses incompétences. Je ne peux pas le croire, je ne peux pas l'imaginer. Il y a des choses que je ne sais pas faire, mais il y a d'autres choses que je sais faire. Il y a des choses que les autres savent faire et il y a aussi des choses que moi, je sais faire. Et parmi les choses que je sais faire, probablement, je sais faire des choses que les autres ne savent pas faire. Vous m'avez suivi? Ok. Mais c'est tellement important de le réaliser. Parce que si on se résume au fait de « je peux pas, je vais pas y arriver », ben oui, tu vas le vivre de cette manière-là. Mais il y a un potentiel, il y a des capacités qui sont à toi. Dieu a prévu les choses comme ça. L'erreur, c'est de se comparer aux autres. Et quand on se compare aux autres, on se limite. Parce que quand on essaye d'être quelqu'un d'autre, on n'est pas ce qu'on devrait être. Alors qu'en fait, il faut plutôt avoir cette démarche de foi d'ouvrir son cœur à Dieu et de dire « Donne-moi, aide-moi à réaliser, à prendre conscience du potentiel et de la capacité que tu as placée en moi. Tu m'as créé, tu m'as tissé, tu as mis cela en moi. Peut-être que je ne le découvre pas. Peut-être qu'il y a, toute cette amas de choses qui m'ont amené à avoir une piètre estime de moi-même. Mais Seigneur, par ton esprit, viens activer cela. Je ne veux pas compter sur moi, sur mes forces, mais viens activer ça. » On peut s'inspirer des gens qui sont autour de nous, mais pas aspirer à être comme eux. C'est différent, ça. Le Saint-Esprit, il permet aux croyants de prendre conscience de leurs points forts. Quand on exerce un talent qui fait partie de la richesse que Dieu a placée en nous, on le remarque. On le remarque aux fruits que ce talent porte autour de nous. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Il dit « Ah, il y a quelque chose ». Quand ce talent il est activé là et puis qu'on y travaille, qu'on le développe, il va avoir un impact sur les autres. Et on le voit parce que c'est un résultat positif, ça procure un résultat positif. Et il y a tellement d'exemples de ça. Alors souvent quand on parle de talent, quand on parle de bonnes choses que Dieu a placées en nous, surtout ces derniers temps, on résume beaucoup à ce qui est visible. Alors le chant, la musique, c'est vrai que c'est des talents qui sont tellement, qui sont très visibles et ça apporte beaucoup. On en a encore eu l'expérience dans le moment qu'on a passé ensemble. Mais il n'y a pas que ça, il y a tellement d'autres choses qui sont placées dans les uns et dans les autres et qui, quand ils se manifestent, ont un impact autour de nous. Je crois que ceux qui ont le talent de l'accueil, ils sont tellement précieux. Ceux qui savent accueillir les personnes qui viennent pour la première fois mettre les pieds ici ou à l'église, c'est tellement important. Et il y a des gens qui ont ce don-là. Et ils impactent d'une manière que particulière. Il y a des gens, leur don, leur talent, c'est d'écouter. Et c'est pas évident, hein. C'est pas évident toujours d'écouter. On a plus tendance à vouloir prendre la parole, à vouloir s'exprimer, que d'écouter. Écouter, c'est un don. Écouter, c'est un talent. Vous savez que les gens, quand ils se sentent écoutés, souvent, ça leur fait du bien. Combien de fois j'ai fait l'expérience en tant que pasteur? Des gens qui nous demandent un entretien et puis qui disent « Oh là là, ça va vraiment mal, je sais pas comment me tirer de la situation dans laquelle je suis, je vis quelque chose de difficile. » On a un entretien qui peut durer 30 minutes, on dit pratiquement rien, et on ressort et dit « Oh bah, merci pasteur, ça va vraiment mieux. » Simplement, elles avaient besoin d'évacuer ce qui les troublait, ce qui était pénible. Et là, il faut apprendre à écouter. Et c'est quelque chose que les gens, que certaines personnes peuvent avoir. La capacité d'exhorter, la capacité d'organiser. Tout le monde n'a pas le don de l'organisation. Et c'est tellement précieux d'avoir des gens qui savent organiser, dans une église notamment, ou dans un groupe de jeunes, mais dans plein d'autres domaines. La direction, la capacité de diriger, la capacité de prier. Dans le passé, on a vu des gens qui avaient ce talent-là, qui avaient ce don-là. La générosité, c'est un talent qui est tellement précieux. Vous voyez, on pourrait en décliner ça dans plein d'autres domaines. Dieu t'aime pour toi-même. Tu n'as pas à mériter l'amour de Dieu. Ta valeur, aux yeux de Dieu, elle n'est pas déterminée par tes capacités. Elle n'est pas déterminée par ta famille. Elle n'est pas déterminée par tes origines sociales. Elle n'est pas déterminée par tes résultats scolaires. Elle n'est pas déterminée par ton physique. L'amour de Dieu n'est déterminé par aucune de ces choses. Et ta valeur, suprêmement, elle n'est pas déterminée par ça. Si tu le crois, ça va alimenter ton manque d'estime. Mais si tu réalises la valeur, la véritable valeur que tu as aux yeux de Dieu, eh bien tu ne vas pas être déterminé par ça. Et ton identité va se construire autrement. Ta valeur, elle est déterminée par celui qui t'a créé. Et qui t'a créé par amour. Parce que c'est un Dieu d'amour qui nous parle. C'est un Dieu d'amour, hein, qui s'est révélé dans la parole de Dieu, enfin dans la Bible. Et ce qui doit prévaloir, ce n'est pas la tyrannie de la performance. La performance scolaire, de la performance dans la beauté, la performance dans le relationnel, avec les amis, avec la famille, pour prouver qu'on a de la valeur. C'est pas ça qui doit, c'est pas cette tyrannie-là qui doit prédominer, mais c'est la foi dans ce Dieu d'amour, un foi dans un Dieu de grâce, un foi qui nous accepte tel que l'on est, pour pouvoir faire ce travail en nous par son esprit. La valeur, elle dépend du fait que on considère que c'est Dieu qui nous a créés. Mais il y a encore quelque chose de plus fort qui montre le prix que tu représentes. Et combien t'es cher, c'est le sacrifice de Jésus. Vous connaissez tous ce verset de Jean 3,16. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un don, le don de ce que Dieu avait de plus précieux, son Fils. Et c'est ce que tu vaux. C'est ce que tu vaux. Jésus a été envoyé par Dieu, il est venu, il a accepté volontairement de mourir à la croix pour le pardon de nos péchés et pour que nous, on puisse à nouveau tourner nos regards vers Dieu pour qu'on puisse avoir cette relation avec Dieu. C'est la valeur. On vaut cher. On vaut tous, chacun, la vie de Jésus, la vie du Fils de Dieu. Je crois qu'on a vraiment besoin ce soir du Saint-Esprit pour que ce verset qu'on connaît tellement et qu'on récite automatiquement, il trouve un écho, mais profond en nous. Je vaux le sacrifice de Jésus. Voilà la valeur, voilà le prix que j'ai aux yeux de Dieu. Et avant de reprendre ce chant, je voudrais terminer avec ce texte-là, qu'on trouve dans la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 17. Si par un seul homme, par Adam, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice, ceux qui se mettent au bénéfice de l'action de Jésus, de l'œuvre de Jésus, régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur, ceux qui croient dans l'œuvre que Jésus a accomplie, il nous est dit qu'ils régneront dans la vie, régner dans la vie. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer ton attention, parce qu'on va reprendre ce chant, mais je voudrais qu'on le prenne vraiment comme quelque chose qui monte vers Dieu. Régner dans la vie, c'est grâce à Jésus que la vie que Dieu t'a donnée s'exprime. C'est parce que Jésus nous a reconnectés avec Dieu qu'on n'est pas abattu et qu'on n'est pas abaissé par notre caractère ou par les autres, par les blessures qu'on a pu recevoir, par le manque d'estime qu'on a de nous-mêmes. Mais tu règnes. Tu règnes parce que dans le regard de Dieu, tu es au même niveau que Jésus. Au même niveau que Jésus. C'est énorme. C'est énorme. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui nous propose ça. Alors on va se recueillir, on va se laisser guider à nouveau par Élodie et puis tous ceux qui sont avec elle ce soir pour nous conduire dans les champs. Mais que le Seigneur puisse, par son esprit, nous permettre de nous rendre compte de l'immense valeur que nous avons. Seigneur, viens par ton esprit nous accompagner dans ce temps de recueillement. Nous voulons vraiment recevoir ce que toi seul peux déposer dans nos cœurs et dans nos vies. Accomplis ce miracle, Seigneur, et je te prie pour mes amis qui sont présents ici ce soir, et en particulier pour ceux et celles qui ont un manque d'estime par rapport à eux-mêmes, qui sont touchés par ce manque d'estime de soi. Seigneur, donne-leur de pouvoir passer à autre chose. Donne-leur qu'ils se rendent compte de leur potentiel, de leur capacité. Donne-leur de se rendre compte ce soir de la valeur, l'immense valeur que tu as, qu'ils ont à tes yeux. Seigneur, c'est quelque chose que toi seul peux accomplir. C'est pas la parole d'un homme qui peut changer un cœur, mais c'est ton esprit qui peut le faire. Et je te demande que cette parole devienne esprit et vie. Je te demande qu'elle change, je te demande qu'elle transforme. Je te demande qu'elle accomplisse un miracle, là où il y a besoin qu'un miracle soit accompli. Je te prie, mon Dieu, pour que les jeunes qui sont ici ce soir, nous qui sommes ici ce soir, nous ne nous laissions pas déterminer par ce qui nous a façonnés naturellement, par nos blessures, par ce qui nous a peut-être humiliés, ce qui nous a abaissés, mais nous voulons nous laisser élever, parce que ta parole dit que nous sommes élevés. parce que tu nous vois au travers de Jésus-Christ, ton Fils. Tu l'as donné pour nous. Seigneur, viens répandre cette certitude dans nos cœurs, Seigneur, ce soir. Alléluia, Jésus.